Et oui, il est 19h, c'est Panique sans la vie. Nous sommes mardi le 21 novembre 2023. Vous êtes sur Radio Panique 105.4 FM ou en streaming www.radiopanique.org. À 19h, ce sont les émissions d'information. Et en fait, il est 19h05. On est toujours presque à l'heure sur Radio Panique. Et aujourd'hui, dans Panique sur la ville, on va parler d'un festival, le festival féministe Toi-même. On a autour de la table deux personnes qui co-organisent ce festival. Il y a Luc Malguem. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Voilà. Hop. Tu es chargé de projet au centre Librex, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. Tu peux te rapprocher un peu du micro? Voilà, super. Et nous avons aussi Ariane Herman, tu es donc cofondatrice de la librairie Tulitu. Bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Et on va aussi parler en deuxième partie d'émission d'une des propositions donc, de ce festival qui est riche dans sa programmation. On va parler d'un documentaire sonore sur un bout de quartier à Bruxelles, dans le centre-ville à Annecens, les 5 blocs, donc au rempart des moines. On va en parler avec Lucie Mesuré. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc tu es socio-urbaniste et réalisatrice sonore. Tu es en train de réaliser du coup un documentaire sur ces tours et puis ce qui s'y passe et puis surtout les personnes habitantes de ces tours. Et on a aussi Ajar Raou. Bonsoir.
Bonsoir.
Et toi, tu connais bien le quartier puisque tu y vis et parce qu'aussi tu as travaillé donc jusqu'à septembre dernier en tant que travailleuse sociale pour Habitat et Rénovation, qui est une association qui, je vais le dire de façon courte, fait du lien dans le quartier et anime, du coup, crée une dynamique locale avec des animations, donc des PCS qui sont les plan de cohésion sociale, donc des espaces de rencontres, de conversations, d'activités dans les logements sociaux que sont les 5 blocs. Voilà, c'est ce qui va nous nourrir pendant l'heure à venir. Et on commence avec ce festival, du coup, féministe toi-même, point d'exclamation d'ailleurs, je crois bien. Mmh. C'est la 10e année de ce festival, alors peut-être qu'on peut retourner 10 ans en arrière et comprendre comment ce festival a été créé.
C'est un festival qui est le fruit d'une heureuse rencontre, je dirais. C'est l'autrice et militante Irène Koffer. En même temps, Point Culture à l'époque, donc, qui hébergeait le festival, avait besoin de se réinventer un petit peu son objet social. Et donc, ils avaient un espace, Point Culture Bruxelles, près du Botanique. Et ils étaient assez ouverts à faire rentrer dans le lieu un tas d'associations. Et donc, on s'est glissé là-dedans. Avec Irène Koffer, on a bénéficié du réseau d'Irène Koffer, de sa volonté de défendre son point de vue, ses points de vue. Et donc, avec un tas d'associations féministes bruxelloises, on s'est retrouvés autour d'une table avec du café. Et on a inventé ensemble la chose qui s'appelle « Féministe toi-même ».
Et j'ai envie de lire, si je retrouve, oui, en fait, j'ai envie de lire un extrait d'un article du journal de l'ASBL Culture et Démocratie qui a fait un retour sur cette première édition et qui disait que c'était un joyeux souk diversifié, organique, où en circulant parmi les différentes possibilités d'implication, il était possible de prendre pied dans le féminisme selon des besoins, des curiosités ou des interrogations différentes. Aujourd'hui, en tout cas, le sous-titre de ce festival, c'est « Mini Salon des militances inventives et joyeuses ». Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Ça signifie qu'on a voulu donner à voir vraiment l'énorme diversité des mouvements féministes et faire un moment de bonne humeur collective et un joyeux foutoir, on peut dire un joyeux foutoir. Et je ne connaissais pas la description du festival par Culture et Démocratie. Je trouve que c'est très beau. On dirait un texte écrit par un communicant, donc c'est tout à fait ça en fait. Donc c'est un endroit où plein d'associations et de personnalités se retrouvent, proposent des activités dans tous les sens, dans la bonne humeur.
Et c'est l'idée d'offrir un espace aussi où toutes ces différentes associations qui travaillent autour de ce thème-là puissent se rencontrer, échanger, partager aussi.
Il y avait l'idée de créer des rencontres aussi, des ponts entre différents courants des mouvements féministes, mais aussi on déborde largement du féminisme aussi. Les questions antiracistes et tout nous préoccupent. On essaie de faire un festival intersectionnel. Donc on assume le fait que c'est plutôt un festival qui défend du féminisme inclusif plutôt qu'un féminisme que je ne qualifierais pas.
il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices pour mettre en place ce festival. Là, je vois Corps Écrit, la Maison du Livre, Point Culture, la Tour à Plomb et aussi la librairie Tulitu qui est là avec Ariane. Ariane, peux-tu un peu nous parler de l'implication de la librairie dans ce festival et comment se fait cette collaboration ?
Nous, en fait, on a commencé à collaborer avec le festival à la 3e édition, je crois. Et moi, en fait, la journée de ce festival Féministe au Même, pour moi, c'est ce que j'appelle la journée qui me donne de l'énergie pour survivre jusqu'à la fin de l'année, parce que la fin de l'année, c'est quand même la période des fêtes. Et c'est vraiment la journée où c'est épuisant et c'est tellement merveilleux parce qu'on rencontre, enfin, on fait que des belles rencontres. C'est en effet très joyeux, c'est aussi très émouvant. C'est très instructif et moi ce que j'adore là-bas c'est que toute la journée je rencontre mille et une personnes que je ne vois pas dans ma librairie et c'est vraiment des très très beaux échanges et en fait moi dans cette librairie ce que je veux c'est apprendre et rencontrer des gens donc j'ai mon compte à Féministe Toi-même, c'est vraiment la journée où je m'amuse et j'apprends et en même temps je fais toujours des belles rencontres donc c'est pour ça que je suis vraiment contente d'être associée depuis le début à l'organisation. Donc je me fais un petit plaisir, c'est que donc à chaque édition j'invite une autrice ou un auteur à venir parler d'un livre sur des questions féministes. Donc on a déjà invité Wendy Delorme, Camille Froidevaux, Jamila Ribeiro, qui est une féministe brésilienne. Et donc cette année-ci, on invite Océan, qui vient de publier un livre sur qui s'appelle Dans la cage et qui raconte en fait son parcours de transition. Et en fait, et surtout son parcours de transition en se battant en fait contre un système patriarcal. Et donc c'est ça qu'on voulait mettre en avant pour le festival Féministe Toi-même.
Et donc ce festival, il commence dès demain, mercredi 22 novembre. Donc là, j'ai une programmation qui fait 4 pages. On va passer, pas à travers toutes ces propositions, mais en tout cas, on va en picorer quelques-unes. Mais peut-être commencer par la première, donc, qui a lieu, comme j'ai dit, demain, à la Maison du Livre, dans l'après-midi, entre 13h et 16h, la Maison du Livre, du coup, rue de Rome à Saint-Gilles. Et c'est une carte blanche à Lisette Lombé, Tendresse, seule survivante. Est-ce que Luc, tu veux nous en parler ?
Bah non, parce que c'est complet. Non, je rigole. Non, Lisette Lombé, c'est quelqu'un qu'on suit depuis le début et on est très admiratif de son parcours. On est ravis qu'elle revienne pour cette 10e édition. C'est symbolique, elle n'était pas disponible ce week-end et donc elle fait quelque chose mercredi. Lisette Lombé, ça fait partie des heureux, enfin comment dire, des couleurs, enfin de ce qu'on trouve vraiment chouette dans ce festival. Il y a des personnalités et Lisette en fait partie. Je suis vraiment profondément admiratif de son parcours. C'est quelqu'un qui a décidé qu'elle arrêtait de travailler et qu'elle devenait autrice. Et elle est devenue autrice. On l'a vu devenir autrice. Moi, je suis vraiment impressionné. C'est très rare les gens qui réussissent à devenir auteur ou autrice. Et elle a décidé de le faire et elle l'est. Et donc, elle est devenue poétesse nationale. Elle a failli avoir le prix Médicis. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et joyeux, généreux, à l'image, je trouve, du festival.
Un beau parcours. À quelques pas de là, il y a Pierre Papier Ciseaux, rue Avenue Hôtel des Monnaies, si je ne me trompe pas. J'ai un petit doute. Non, mais c'est ça. Pierre Papier Ciseaux, le soir, avec un grand nettoyage. Donc, là, je regarde Luc.
Donc, Pierre Papier Ciseaux, donc c'est un endroit. Valérie Provost est une artiste plasticienne et un peu thérapeute, je crois. Et donc, elle a un endroit qui s'appelle Pierre Papier Ciseaux, je crois, à Saint-Gilles. Et avant le festival, on en a profité pour intégrer le finissage, je crois, d'un mois de résidence pour une autrice qui travaille la question du travail ménager. Et donc, je crois qu'elle va. Le samedi même, elle va présenter une exposition, je crois, de torchons. De torchons travaillés, évidemment. L'année passée, c'était des culottes. Ça fonctionnait très bien aussi à l'entrée. Les gens nous regardaient bizarrement. Et donc Valérie Provost, elle, pendant le samedi, elle donne un atelier qui fonctionne toujours très bien. Et donc, on le reproduit. Cette année, je crois que c'est des portraits brodés. Donc, il y a une grande table et les gens reçoivent du matériel pour broder. Ça fait en général un moment de pause pour les gens qui s'arrêtent. Je recommande aussi.
Très bien, on va revenir tout à l'heure sur la journée du samedi qui est bien chargée à la Tour à Plomb. Avant ça, il y a une soirée d'ouverture qu'on dit très officielle, donc c'est vendredi, donc toujours à la Maison du Livre. Oral Story, féminisme, minorité et visibilité. De quoi il va être question ce soir-là ?
Il sera question de représentation des femmes minorisées autour d'un bouquin collectif qui est assez passionnant, qui s'appelle Oral Story. Et donc, les autrices choisissent chacune un visuel et en parlent. Et donc, il y a ça. Et puis, la soirée sera finie par un mini-concert d'un groupe tout à fait fascinant que je viens de découvrir et que j'écoute une fois par jour en travaillant, qui s'appelle Flo Aimé, que je conseille d'aller voir sur YouTube. C'est pas encore très connu, mais ça le deviendra. C'est mon émotion artistique de l'automne.
Très bien. Avant de passer au samedi, je crois que j'ai envie d'écouter Anne Sylvestre. Voilà, j'ai décidé. C'était le souhait de votre part de rendre hommage à Irène Koffer avec ce...
Anne Sylvestre, je pense qu'elle aurait choisi un morceau Irène Koffer aurait choisi un morceau d'Anne Sylvestre. Je crois que c'était l'autrice qu'elle vénérait. Elle a d'ailleurs participé à un stage d'écriture, je crois, quelques années avant le décès d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre n'était pas dupe. Irène n'avait pas besoin de participer à un stage d'écriture. Elle voulait la rencontrer. Et donc, elle l'a rencontré pendant une semaine à Barjac.
Très bien. Donc, on va écouter « Non, tu n'as pas de nom » d'Anne Sylvestre.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non. Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Non, non, tu n'as pas de nom. Dan Sylvestre, qui aimait beaucoup Irène Koffer, qui nous a quittés l'année passée, qui était la cofondatrice donc, du festival féministe Toi-même, dont on parle aujourd'hui, ce soir, dans Panique sur la ville, sur Radio Panique. 10e édition de ce festival, avec une grosse journée pour le samedi, le 25 novembre, ce samedi, au centre Tour à Plomb. Donc, ça, c'est rue de l'Abattoir, numéro 24 à 1000 Bruxelles, pas très loin de la porte de Ninove. On va picorer dans ce samedi bien chargé. On peut parler peut-être d'architecture et de féminisme avec donc à midi une visite guidée féministe Bruxelles hors les murs du genre qui est proposée par l'architecture qui dégenre. Donc là, on nous propose de se promener dans la ville.
Donc ça, c'est pas un atelier, c'est une visite guidée féministe qui est complète aussi, donc c'est pas la peine de s'inscrire. mais vous prenez ceux qui sont complets. Et ça fonctionne très bien. Enfin, je crois que c'est passionnant, vu en 2 jours, c'était rempli. Et donc, on va inviter les participantes à aller écouter l'atelier après l'écoute radiophonique, parce qu'on sera passé dans le quartier d'Ajar et les 5 tours.
Qui n'est pas le quartier naissance.
Les 5 blocs, pardon.
Voilà, qui n'est pas le quartier naissance d'ailleurs.
Donc je me trompe. Rempart des moines.
Rempart des moines, voilà. Mais on précisera ça. Pardon, je t'ai coupé, Luc.
Non, mais je crois que j'ai fait le tour de cet atelier qui est complet et qui sera passionnant, bon. Parce que visiter la ville avec des lunettes de genre, c'est tout à fait étonnant. Enfin, il y a un tas de trucs qu'on ne voit pas. Et l'architecture qui dégenre a, je crois, le chic pour mettre en évidence ce qu'on ne voit pas.
Et qu'est-ce qui n'est pas complet alors? Parce que j'ai peur de faire encore une erreur et de proposer quelque chose qui est complet.
La plupart des ateliers sont sans inscription, puisque les gens ne respectent plus les inscriptions de nos jours. Donc on s'adaptera, je crois, à peu près partout.
Très bien. Il y a du... J'y vais vraiment plic-ploc. Hein. Il y a à 14h, Julie Lombé qui propose du slam burlesque intitulé « Taxe à la chatte ».
Là, c'est une erreur, c'est pas à 14h, elle va... Vous avez un vieux programme, on a retiré 14h, elle va intervenir chaque fois dans des petits formats de 2-3 minutes, elle va se glisser dans les ateliers et faire des performances. Donc, oubliez l'heure.
Très bien, je ne dis plus les heures. écoféminisme et magie verte, un atelier de Speljar.
Alors là, c'est très mystérieux, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent. Moi, personnellement, la magie verte, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est... Je peux difficilement parler d'un truc que je n'ai pas encore fait, mais je vous invite à aller voir. Parce que je pense que c'est très... Mon avis n'a aucun intérêt, en fait, là-dessus. Inscrivez-vous, allez voir, et c'est passionnant.
Je crois que c'est aussi un atelier qui met en avant l'écoféminisme, en fait, aussi. C'est le lien qu'il y a entre la nature et les femmes.
Ariane, justement, tu as des propositions par rapport à ce samedi, de même s'il y a beaucoup de choses au menu dont on pourrait parler.
Mais en fait, il faut dire qu'on a beaucoup de choses et on a peut-être beaucoup plus que les autres éditions, parce que surtout aussi, le lieu le permet, c'est-à-dire que c'est un lieu immense avec plein de salles différentes dans lesquelles on peut donc créer des ateliers différents. Donc je crois que c'est pour ça que l'année passée, cette année-ci, c'est vraiment... assez exagéré le nombre d'ateliers ou de rencontres qu'on organise, mais c'est justement ça, je crois, qui fait en effet notre ADN de ce festival, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'ateliers, et c'est un festival qui est principalement basé sur des ateliers, et puis on a aussi des rencontres plus formelles, on va dire. Moi, je mettrai en avant peut-être, ça c'est la vieille qui parle, enfin la vieille. C'est il y aura un atelier entre autres sur autour des Cahiers du Griffe. Donc les Cahiers du Griffe, c'était une revue féministe très importante. Et il y a un livre qui vient de paraître sur ces cahiers, et on trouvait que c'était important en fait de sensibiliser en fait les jeunes aux combats qui ont déjà eu lieu, et cette revue qui en était le reflet. Et donc on va demander à trois personnes, dont Nadine Plateau, qui était donc qui faisait partie de l'équipe des Cahiers du Griffe, de venir parler de cette revue, et surtout après de faire des lectures en mode atelier de nouveau, avec un échange, parce que c'est vraiment en fait le je crois que c'est un luxe, d'accord. Notre ADN, c'est qu'on veut pas quelque chose d'ex-cathédra, on veut vraiment qu'il y ait toujours un échange entre les participantes et les organisatrices. Donc voilà. Donc ça, je crois que l'atelier sur les Cahiers du Griffe, je pense que c'est important en fait comme atelier, d'un point de vue historique, de pouvoir aussi se resituer en fait dans un contexte donné, quoi. On vient nos combats d'aujourd'hui, ils sont en fait issus des combats d'avant. Et quand on nous entend, certains qui disent que les femmes, maintenant on a tout, donc on n'a plus besoin de se battre, c'est un peu de le rappeler en fait qu'il y a des combats qui ont été menés il y a très longtemps et qui malheureusement sont toujours des combats d'aujourd'hui. Et alors peut-être là j'ai prêché pour ma chapelle, il y a Océan qui vient, et puis il y a aussi Florence Hénault qui va participer à un atelier sur les cyberviolences.
C'est sur les violences conjugales.
Ah oui, sur les violences conjugales, voilà. Et ça, je pense que ça va être aussi un sujet. Donc vous voyez, quand on dit qu'on est joyeuse, mais c'est quand même des sujets assez graves qui sont traités, mais dans une ambiance en fait festive.
Avec Florence Hénault, ça ne peut être que joyeux.
Oui, ça c'est clair qu'avec Florence Hénault, on va bien s'amuser.
Et du coup, cette discussion autour des violences conjugales, c'est en lien aussi avec la diffusion d'un podcast de Pourquoi c'est comme ça, qui est une série de podcasts qui parle un peu de la vulgarisation des thématiques féministes, et on en parle aussi parce que sur Radio Panique, on a encore un ou deux épisodes qu'on diffuse tous les lundis à 19h donc de cette série Pourquoi c'est comme ça. Et donc sur mon programme, c'est marqué 15h ce samedi. Voilà.
Mais ça, franchement, allez voir sur le site. Alors, donne l'adresse du site, Luc.
On a un tout nouveau site qui vient de sortir. On vient de l'ouvrir en mode public hier. Il s'appelle féministe-toi-même.be.
Il est très dynamique. Il y a des boules rouges comme ça qui...
Il faut féliciter Arché Azmat qui travaille pour nous souvent. Voilà.
Et là, les infos sont à jour.
Magnifique. Peut-être Ariane, que tu parlais de combat, et je voulais faire un lien avec les jeunes générations et les ateliers du coup de ce samedi, avec deux ateliers, un d'autodéfense verbale organisé par le plan Sacha qui s'appelle Non c'est non, c'est probablement autour du consentement. À 16h, et en parallèle à la même heure, c'est Garance qui propose un atelier d'autodéfense féministe destiné aux jeunes filles de 10 à 14 ans. Donc il y a aussi ce souci d'aller toucher la jeune génération et de les sensibiliser, en tout cas c'est pas les sensibiliser, c'est plutôt de leur donner les outils pour un peu se faire sa place dans notre société aujourd'hui.
Oui, et là je pense en fait qu'on peut dire qu'on veut vraiment toucher tout le monde, puisqu'on a même en fait un espace pour les enfants qui ne s'appelle pas un espace garderie, parce qu'on ne les garde pas. On les amuse, on leur apprend des choses. Donc il y aura des contes par des dragues, il y aura des bricolages féministes, il y aura vas-y Luc enchaîne si tu sais plus. Enfin,
des séances massage enfant par an.
Voilà. Donc il y a aussi des activités pour les enfants qui ne consistent pas juste à les faire jouer avec des balles.
Mais ça permet quand même aux parents d'aller faire des trucs à côté.
Exactement.
Donc c'est un petit peu une garderie parfois quand même.
Non.
Pour faire un fémage aussi à Irène Koffer, il y a un concours de nouvelles, changer d'heure, et il y a la proclamation du coup des résultats de ce concours en fin d'après-midi. Donc les gens ont déjà proposé leurs nouvelles, et j'imagine qu'il y a un jury.
Il y a un pré-jury qui a choisi 12 nouvelles, et le jury est en train de trancher pour les trois dernières. C'est assez fascinant de voir 60 participants et participantes. C'est assez fascinant de voir 60 personnes écrire sur le même sujet.
Très bien. Et on finira avec un feu d'artifice final qui est une carte blanche à Cablab et les sous-entendus.
Donc c'est un mélange de cabaret et de stand-up. L'année passée, ça avait cartonné, le stand-up. Là, c'est une forme un peu plus hybride et on est très curieux de voir ce que ça va donner parce que c'était pas super facile, je crois, à mettre en œuvre. Et ça va être génial.
Magnifique. Et donc tout ça, c'est le samedi, ce samedi à la Tour à Plomb, donc rue de l'Abattoir. À 1000 Bruxelles, oui. Dans le cadre du festival.
Et je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est gratuit. Hein. Tout ça est donc
on n'a pas du tout parlé de prix.
Voilà, ben, c'est gratuit, donc c'est encore une raison supplémentaire pour venir.
Très bien. 19h30, je vous propose de sortir de la Tour à Plomb, de faire quelques pas pour arriver, avant d'arriver au canal, d'arriver rue du Rempart des Moines, et on vous propose une archive de Radio Panique, une archive assez récente, ça fait 2-3 ans, mais pour vous mettre dans le bain.
Je suis Aïcha, je suis une maman active au sein même de Saint-Bloc.
Il pleut.
Vous êtes habitante de Saint-Bloc ou
je
alors
je suis pas habitante, mais je suis née à la porte de Ninov, j'ai grandi là. Et quand je me suis mariée, je me suis retrouvée à la rue de Flandre. Donc.
Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Inch'Allah.
Ça, comment ça va changer, je ne sais pas, parce qu'on appréhende, mais les 5 blocs, ça, dès que j'ai ouvert les yeux, je les ai toujours vus. On a toujours connu les 5 blocs. Ça fait partie un peu de notre vie, donc c'est vrai que le jour où il n'y aura plus ces 5 blocs, je ne sais pas. On appréhende, mais peut-être que ce sera mieux. Mais l'ambiance, est-ce qu'elle sera la même, je sais.
Comment vous êtes arrivée vers ce projet? Vous faites partie de la chorale?
Oui, mais je fais partie de la chorale depuis presque 9 ans maintenant. Et donc, ce n'est pas du tout le premier projet. C'est vraiment un projet qui est dans la continuité de ce qu'on fait d'habitude. Ce que j'aime bien dans cette chorale, c'est que c'est une chorale très engagée, donc politiquement, socialement. Et puis qu'on est aussi très pointu sur le plan de la musique. Ce sont toujours des projets très originaux.
Mais comment est-ce que vous voyez que d'un coup, il y a des gens de la culture, en fait, qui s'intéressent au devenir de votre quartier?
Il y a 3 ans de cela, je crois, qu'on a fait la connaissance de Ralph. Et c'est vrai qu'on ne comprenait pas très bien qu'est-ce qu'il venait faire ici. Surtout que c'est un artiste, hein, il est dans la musique, il fait partie d'une chorale. On ne comprenait pas très bien pourquoi il était si attaché aux 5 blocs. Et il nous a expliqué, il a dit que pour lui, même s'il n'habitait pas ici, pour lui, c'était, les 5 blocs, c'était symbolique. Et il voulait raconter une histoire après les 5 blocs. Et c'est pour ça qu'ils sont occupés à monter toute une chorale. Parce que si vous faites attention dans sa chorale, donc toutes ses paroles, c'est en parallèle avec ce qui se passe ici, dans les 5 blocs. Même. Il faut dire que c'est quand même une classe moyenne qui habite ici, limite...
Pauvre, quoi.
Oui. Mm-hmm. Dans la précarité.
Ouais.
Et voilà, ils peuvent pas se permettre... Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais c'est normal que ça nous touche, parce que voilà, on se dit, notre inquiétude... Voilà, on n'est pas les seuls Comment expliquer ça? Oui, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont voisins ou qui sont amis et qui s'inquiètent aussi de ce qui va se passer. Donc c'est vrai que ça nous touche, forcément.
Voilà, on plongeait dans un reportage réalisé par Liévin Chemin il y a 4 ans pour l'émission Bruxelles nous habite, donc ce magazine de Radio Panique autour de Bruxelles. On était donc dans les répétitions d'une chorale multiculturelle engagée au Brecht and Eisler Corps, qui était menée par Raff Koester, donc artiste-chanteur, sur ce projet, donc la mélancolie des 5 blocs, qui a été présenté du coup quelques mois plus tard au Kais Theater Studio. Et donc voilà, on plongeait dans ces 5 tours donc d'habitat social qui vivent leur dernière heure. On va en parler de ce qui se passe pour ces 5 blocs dans ce quartier. Et on va en parler avec Ajar, puisque toi, Ajar, tu es habitante du quartier. Tu as travaillé, comme je le disais au début de l'émission, pour Habiter et Rénovation, donc pour, en lien avec le PCS du secteur. Comment tu décrirais les 5 blocs à ta manière?
Donc pour moi, les 5 blocs, c'est un peu une cité de 8 blocs, de 5 blocs, de 8 étages chacun. Et c'est une cité qui, que j'ai vue du coup évoluer, vu que j'ai grandi dans le quartier. À travers le temps, on peut voir que année après année, elle vieillissait avec les années du coup. Mais... il y a un projet de démolition qui est en cours et qui va être mis à disposition, on ne sait pas quand, donc il n'y a pas vraiment de date. Étant travailleuse sociale, je ne savais pas non plus quand ça allait se passer, mais on devait constamment épauler, rassurer, aider les habitants qui y restent. Sur les 5 tours, il reste 2 tours habités, plus ou moins 200 personnes, peut-être moins maintenant en tout cas.
Parce que du coup, pour comprendre, ces 5 tours, quand il y en avait 5, c'était plus de 300 logements, quelques 800 personnes qui vivaient du coup dans ces tours. Et ce projet de démolition-reconstruction, c'est la forme que ça prend aujourd'hui, c'est 3 bâtiments, moins de logements sociaux qu'avant, on parle je pense de 200 logements sociaux, donc il y a une perte d'une centaine de logements sociaux, au profit de ce qu'on appelle des logements...
moyens.
Voilà, moyens, mais donc d'après différentes associations, dont Inter Environnement Bruxelles, qui suit de façon assez proche l'évolution de ce secteur-là. Il y a déjà beaucoup d'offres de loyers moyens dans le quartier, alors que... On est bien au courant des longues listes d'attente pour les logements sociaux à Bruxelles. On parle d'une dizaine d'années pour en obtenir un, donc du manque cruel de logements sociaux. Donc voilà, on va dire, prétexte du besoin de rénover ces bâtiments, puisque manifestement il y avait des soucis d'isolation des espaces, donc de champignons qui apparaissait dans les logements, qu'il n'y avait pas de double vitrage, que le chauffage était difficile, que l'été c'est très chaud. Donc la régie bruxelloise a décidé d'investir de l'argent, mais d'abattre pour rénover le bâtiment. Pas forcément... donc il y a toujours ce souhait de concertation avec les citoyens et citoyennes du quartier, ce qui se fait à travers des consultations qui manifestement se font aussi à des moments, en tout cas la dernière commission était en plein mois de juillet où souvent les gens sont en vacances et donc pas là pour pouvoir un peu discuter des nouveautés, en tout cas de l'avenir de ces tours-là. Comment est-ce que... du coup, comment toi se passait le travail au sein du PCS et ce lien avec les personnes habitantes, sachant que ce projet était en cours et que voilà, ces gens allaient être probablement relogés en partie et puis peut-être ne pas revenir dans ce lieu qui les avait fait vivre ou en tout cas dans le quartier dans lequel ils vivaient?
C'était une très belle expérience. J'ai vraiment aimé travailler là, surtout avec les habitants. Ils ressentent des sentiments que je ne ressentais pas avant et ils n'ont pas de mal à expliquer leur quotidien et comment, comment est fait leur appartement, leurs problématiques au quotidien. Et donc, durant un an, j'ai pu répondre à des problématiques que je ne connaissais pas avant. Et je trouve que ces habitants-là ont besoin d'être soutenus à travers du coup, les PCS, à travers des activités. Je pense que j'ai été d'une grande aide pour ces personnes. J'ai créé des liens, nous avons fait des projets et c'est des souvenirs qui restent gravés et enregistrés aussi, grâce à Lucie.
On va y venir juste après. Tu peux parler un peu des activités, en tout cas de la manière dont toi tu faisais lien avec ces personnes habitantes.
Donc, en bas d'une tour, j'avais un local. Et donc, c'est à travers ce local que tout se passait. C'est un local qui est assez ouvert à l'extérieur. Donc, si vous passez seulement dans les 5 blocs, vous allez directement apercevoir le local. Les activités se faisaient dans le local même ou parfois à l'extérieur. Et les habitants venaient avec des idées ou je leur proposais des activités et on les réalisait.
Oui. et du coup, bah, tu as un peu mentionné donc Lucie. Donc toi, Lucie, comment s'est fait cette découverte donc de ces tours et l'envie d'aller poser ton micro pour la réalisation d'un documentaire.
Bah du coup, moi, je suis socio-urbaniste et réalisatrice de documentaires et un jour, je me baladais. Donc dans le quartier, et je me suis dit que c'était assez étrange, ces tours, alors moi j'appelle ça des bars hein, d'immeubles, mais ces bars d'immeubles qui avaient l'air vides, et je me suis un peu renseignée, et on m'a dit que c'était un projet presque 100% démolition, donc en urbanisme c'est assez rare, il y a des projets de réhabilitation où il y a de la démolition, mais généralement voir un quartier disparaître en entier, c'est très rare. Donc je me suis dit, ça m'intéresserait de documenter ce quartier et donc d'aller rencontrer les habitants qui restent, parce qu'on avait 1000 habitants à l'origine, un quartier très vivant qui fonctionnait comme un village, et 800 habitants sont partis, ont été mutés, donc relogés, et on a à peu près 200 habitants qui restent en attendant la démolition. Et ce qui est intéressant pour nous là ce soir et en lien avec le festival Féministe Toi-même, c'est que donc j'ai réalisé ce documentaire grâce à Ajar, qui a été vraiment ma porte d'entrée. Donc en tant que travailleuse sociale dans le quartier, c'est elle qui m'a ouvert les portes et qui m'a fait rencontrer les habitants. Et d'ailleurs, ce documentaire s'appellera Ajar et les 5 blocs. Donc c'est l'histoire aussi de Ajar en tant qu'habitante du quartier juste à côté. Hein, à Nessens, c'est vraiment le village d'à côté.
C'est ça.
Et du coup, les 5 blocs, pour elle, c'est à la fois le lieu où il y a ses voisins, où elle a grandi avec, et aussi un lieu où elle a pu travailler et découvrir les problématiques des locataires du logement social durant un an. Et ce que je trouve intéressant toujours hein, dans un documentaire, c'est la relation entre la réalisation et les interlocutrices. Et donc, Ajar est mon personnage principal. Et c'est cette relation que je trouve, dont j'aimerais qu'on parle en fait aussi durant ce festival. On a donc à 14h une écoute dans la salle du théâtre de la Tour à Plomb. On va écouter la bande-annonce de ce documentaire, donc un petit cours qui est un zakouski, qui est une mise en bouche de ce que va être ce documentaire, qui va encore durer, hein. Je suis encore en tournage pendant plusieurs mois. Et puis on va discuter surtout de notre relation en tant que deux femmes qui se sont rencontrées dans ce quartier et qui ont appris à collaborer ensemble autour de cette parole habitante.
Et donc toi Lucie, ça fait 2 ans que tu rencontres les personnes de ces 5 blocs. Comment ça se passe d'arriver, comment on pose ton micro dans des bars, comme tu dis, de logements sociaux, comment on se fait connaître, accepter, que les gens acceptent, oui, de se livrer au micro. Comment se fait ce lien-là?
Alors moi, je vais parler de ma méthode, peut-être, et qui est quand même très empreinte à la sociologie. Quand j'arrive dans un terrain, je prends du temps. sur un tel terrain, il faut vraiment prendre du temps et être patient. Je crois que le premier piège quand on fait de la réal ou quand on fait aussi de la sociologie, c'est de se dire je suis pas bonne, j'arrive pas à rencontrer les gens veulent pas me parler, c'est long. Et en fait, ça prend du temps. Alors la mise en place d'un lien de confiance prend du temps. Mais quand on est en enquête socio, on doit remplir un entretien, il faut compiler des données qualitatives ou quantitatives. Quand on est à la radio, il faut avoir un bon entretien. Et pour ça, il faut avoir du coup un lien de confiance qui est vraiment construit avec les personnes qu'on interroge. Et je pense que ma chance, ça, c'est d'avoir eu du coup le PCS comme donc ce plan de cohésion sociale, ce lieu associatif en pied d'immeuble où Ajar travaillait, qui m'a permis de rencontrer les gens quotidiennement. Je venais sous forme de résidence pendant 2 semaines, rencontrer les gens à travers les activités, à la fois quotidiennes de suivi que tu proposais à Ajar, mais aussi les activités hebdomadaires qui pouvaient être le potager, la soupe,
la peinture
avec Mimoun qu'on salue, toutes sortes d'activités qui étaient, je le dis quand même, portées par les habitants. Il y avait vraiment cette volonté. Il y a cette volonté au PCS que les habitants proposent eux-mêmes les activités et qu'ils puissent les mettre en place eux-mêmes. Et donc ça a été un terrain sous forme de résidence, plongé dans le quotidien d'un PCS. Et puis quand la relation avec les interlocuteuristes était mûre, quand je sentais qu'on allait pouvoir vraiment parler, alors on allait faire l'entretien. Et c'était dans l'arrière du PCS, dans une petite salle. Et du coup, j'ai pu rencontrer des personnes comme ça entre janvier et juin dernier.
Et du coup, Ajar, toi, ça t'a permis aussi de je ne sais pas quel était ton lien avec le son, avec le reportage, le documentaire sonore, mais du coup, qu'est-ce qui t'a... qu'est-ce qui t'a attiré, en tout cas, comment tu as vu le travail de Lucie, d'arriver avec des micros, d'enregistrer, comment ça s'est passé pour toi?
Pour moi, je trouvais ça extraordinaire, surtout qu'elle avait un micro qui ressemblait à un chat. Et pour l'anecdote, je lui ai demandé à quoi ça sert, parce que je ne savais pas trop. Elle me dit oui, c'est pour pas qu'on entende tous les sons qu'il y a autour. Et donc, à partir de là, je me suis intéressée à son matériel. Je lui proposais des pistes audio où je donnais des idées. « Oh, et si tu enregistrais ça plutôt que ça ?» Et je me suis rendu compte que j'aimais bien et que je voulais aussi essayer. Et donc, je suis venue à Radio Panique. J'ai emprunté le matériel et je suis partie enregistrer mes sœurs pour faire un documentaire audio sur les sœurs au centre-ville à Naissance. Qui va sortir peut-être.
Tes sœurs à toi.
Mes sœurs à moi, Assia et Myriam. Et donc là, nous sommes en train de le monter. Et c'est, grâce à Lucie, en tout cas, j'ai pu découvrir qu'est-ce que ça est d'interroger et d'enregistrer des gens. Donc j'étais plus celle qui parlait, mais celle qui enregistrait.
Un grand documentaire qui s'appelle, titre provisoire, Tous les chemins mènent à Naissance.
C'est ça.
Et voilà, que Ajar a réalisé et co-monté.
Et qu'on pourra entendre un jour, peut-être.
Ici à la radio, pourquoi pas.
Et donc, Ajar et les 5 blocs, donc ça c'est le nom du documentaire qui, à venir, donc dans quelques mois, quand toi, Lucie, tu auras fini tout ce travail-là. Donc on rappelle, c'est un documentaire, enfin on ne le rappelle pas, on le dit, que c'est un documentaire soutenu par la CSR et le FACR, le Fonds d'aide à la création radiophonique. Et donc ce samedi, on pourra entendre la bande-annonce. C'est comme ça que tu le titres.
Ou Zakouski ou mise en bouche. Bande-annonce, ça fait très film. On a quand même 10 minutes d'écoute, donc c'est un peu long pour une bande-annonce. L'idée, c'est aussi de faire l'état des lieux, là, à présent, du tournage tel qu'il est. On aimerait parler plus que du projet urbain, en fait, de ce que c'est les 5 blocs là aujourd'hui. Donc des bâtiments vidés de leurs habitants. Il en reste quand même 2 bars où il y a des habitants qui restent. Et puis c'est aussi un quartier où il y a des appartements vides, mais donc disponibles. Et il y a des personnes sans abri qui y habitent. Et donc il y a une ambiance quand même assez spéciale dans un quartier qu'on pourrait dire habituellement en urbain, no man's land, quartier désert, mais en fait c'est pas désert, il y a quand même des gens qui vivent et des nouveaux habitants. Et cette situation, c'est ce qu'on a voulu avec Ajar documenter là aujourd'hui, tel que c'est. Et ça va être aussi un des enjeux de ce documentaire long, c'est d'arriver à voir le long de mon terrain l'évolution de ce quartier à travers toutes mes résidences, toutes mes venues, parce qu'il évolue de mois en mois. Et il y aura peut-être aussi un moment durant le tournage, le moment de la démolition. Et ça sera intéressant aussi de renseigner cela, et de renseigner aussi peut-être la parole de personnes qui sont déjà parties et qui ont été relogées, parce que, rappelons-le, les relogements, les mutations ont débuté il y a déjà longtemps maintenant, peut-être un an et demi, les premières. Et du coup, ça serait intéressant aussi d'aller voir des personnes qui sont parties. Il y a le fait quand même qu'on chérit un quartier. On grandit dans un quartier, on y vit. C'est le centre de Bruxelles, donc il y a une aménité évidente à vivre dans le centre. Mais il y a aussi la question, là, à l'échelle du logement, on est quand même aux 5 blocs dans des logements en très mauvais état. Et pour des personnes qui ont été déplacées, ça m'intéresserait, un an après le relogement, de voir qu'est-ce que ça fait de vivre dans un appartement neuf, par exemple. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est essayer de documenter la complexité d'une opération urbaine aussi lourde. Et du coup, d'avoir des personnes qui ont différents profils. Il y a ceux qui restent et qui vont rester pendant sûrement les travaux et la démolition. Et je pense que leur témoignage est très important et qu'il faut le renseigner. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà partis. Et de voir avec un peu de temps qui a passé, qu'est-ce que ça fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on va entendre samedi, c'est qu'est-ce que ça fait des immeubles vides ? Et qu'est-ce qu'il y a dans des immeubles vides ?
Donc ça, c'est samedi, ce samedi à 14h, donc à la Tour à Plomb, rue de l'Abattoir, au numéro 24. Et ce sera donc suivi d'une discussion, d'un échange avec vous deux, Lucie et Ajar aussi, pour parler de... Un peu comme on l'a fait ce soir, un peu cette expérience de cette rencontre et de découverte pour toi, Lucie, d'un quartier. Est-ce que on peut... est-ce que vous voulez qu'on conclue ? Oui, ça va, on a fait le tour, probablement. Je pense que du coup, on pourra passer une des propositions musicales d'Ariane. Si elle le veut bien.
Ah, chouette alors.
Voilà, tu peux même choisir.
Non, vas-y, choisis.
D'accord.
Elles sont bien toutes les deux.
Ok, alors je vais choisir. Et donc je vais rappeler que si vous voulez avoir l'entièreté de la programmation du Festival Féministe Toi-même, vous pouvez aller sur le site tout fraîchement mis en ligne Féministe Toi-même en un seul mot sans accent .be et on retrouve donc la multitude des propositions pour toute la semaine parce que ça commence dès demain, même si la grosse journée c'est samedi, c'est gratuit. Et voilà. Et dans quelques minutes, c'est l'émission Mon Créal Slowa qui parlera de Bill Orcutt. Et à 22h, c'est une carte blanche à In Jane dans l'émission Daydream Nation. Et donc, pour conclure, on va écouter un morceau d'Ize qui s'appelle Rien à prouver. Bonne soirée sur Radio Panique et merci du coup de votre présence ce soir.
Merci.
À vous.
Merci. À vous. Merci. Merci.
Artiste aigri, en perte de vitesse, avide de gloire, de reconnaissance. Il m'a fait peur, mon adolescence. D'après mon père, je vendrai mon huc. Je ferai la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et le grand frère aussi. Tout le monde était là, mais personne n'a rien dit. De maison de disque en maison close. Toujours les mêmes parties de fesses. Maman africain qui est hyperisé. Je bouge mon boulot pour enfuir leur caisse. Ah, j'ai plus rien à prouver. Qui veut ma vie, des liasses de regrets. Vivre à crédit pour éponger mes têtes. Serrer les dents pour que tout ça s'arrête. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. La réalité me rattrape au réveil. La réalité me chuchote au réveil. Au petit matin, j'ai quitté le nid. Pris mon envol petit à petit. Je suis tombé 100 fois, j'ai su me relever. Devant le miroir, j'ai su me retrouver. Et devant le miroir, je me suis retrouvée. Et devant le miroir, je me suis retrouvée.
J'ai plus rien à prouver, à part faire de l'oseille.